when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Bonjour, bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine.
Selon une étude récente de Zipia.com, 39% des salariés interrogés ont admis avoir déjà dormi pendant une réunion de travail. Ce chiffre est drôle, certes, mais il est alarmant et souligne plusieurs questions sur la nature et l'efficacité de nos réunions. Alors, installez-vous confortablement, sans vous endormir s'il vous plaît, et nous allons explorer ce phénomène. Imaginez une salle de réunion où 4 personnes sur 10 glissent doucement vers un sommeil impromptu. Cela peut prêter à sourire, mais c'est un indicateur sérieux que quelque chose ne fonctionne pas dans notre manière de concevoir les réunions. Cette tendance n'est pas seulement une question de manque de sommeil ou de longueur des réunions, mais aussi de leur performance et de leur dynamique. Et avec l'explosion des visios et des réunions à distance, le phénomène ne fait qu'empirer. Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi les employés finissent par s'endormir en réunion. Le premier est le manque d'engagement. Si le contenu de la réunion n'est pas engageant ou si les participants sentent qu'ils ne contribuent pas, l'intérêt diminue et la somnolence prend le dessus. C'est vrai, assister à une réunion à distance sans jamais participer, à quoi bon ? Un autre facteur est le timing des réunions. Des réunions programmées juste après le déjeuner ou en fin de journée sont particulièrement propices au sommeil. Enfin, l'environnement lui-même peut être coupable, une salle mal ventilée, une température trop chaude ou un éclairage tamisé. Ce phénomène a des répercussions directes sur la productivité. Chaque minute passée à sommeiller en réunion est une minute perdue pour l'entreprise. De plus, cela peut aussi affecter le moral des salariés. Se sentir obligé d'assister à des réunions non productives peut être frustrant et démoralisant, ce qui affecte l'engagement général envers le travail. Pour combattre ce fléau du sommeil en réunion, nous pouvons adopter plusieurs stratégies. Premièrement, limiter la durée des réunions, maximum 30 minutes, sauf exception. Des études montrent que la concentration humaine commence à décliner après 30 minutes. Deuxièmement, assurez-vous que l'agenda de la réunion est clair et que chaque participant a un rôle actif, ce qui augmente l'engagement. Troisièmement, soyez attentif aux besoins physiques, assurez une bonne ventilation, une température agréable et un éclairage suffisant. Par ailleurs, une réunion à 15 personnes, cela ne sert à rien, 5 personnes maximum. Donc, dormir en réunion n'est pas juste un sujet de plaisanterie, c'est un véritable indicateur de l'efficacité de notre manière de travailler ensemble. En prenant des mesures pour rendre les réunions plus engageantes et plus dynamiques, nous pouvons non seulement réduire le nombre de siestes involontaires, mais aussi améliorer la productivité et la satisfaction au travail. Réfléchissez-y la prochaine fois que vous planifierez une réunion. Est-elle vraiment nécessaire? Comment pouvez-vous la rendre plus active et plus intéressante? Et comment pouvez-vous garantir qu'aucun participant ne fera un petit dodo? Selon une étude réalisée par Robert Half, nous passons en moyenne chaque semaine 4 heures à gérer des emails qui ne sont pas cruciaux pour notre travail. Cela représente environ 200 heures chaque année. Oui, 25 jours de travail par an. Imaginez ce que vous pourriez accomplir avec tout ce temps supplémentaire. Alors, comment pouvons-nous mieux gérer ce flot constant et récupérer ces heures précieuses? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Alors, commençons par comprendre l'ampleur du problème. Ces 4 heures hebdomadaires de gestion d'emails non essentiels ne sont pas juste une perte de temps. Elles représentent une distraction significative qui peut fragmenter notre concentration et diminuer notre efficacité au travail. Faisons le point sur les sources de ces emails. Sont-ils en majorité internes ou externes? Viennent-ils de certains collègues ou de départements particuliers? Comprendre d'où viennent ces emails peut vous aider à mettre en place des stratégies ciblées pour les réduire. Alors tout d'abord, il faut utiliser les filtres et des dossiers pour automatiquement trier les emails non essentiels. Par exemple, quand j'étais en entreprise, j'avais précisé à toutes mes équipes que dès que j'étais en copie, l'email allait directement à la poubelle. Et non, ce n'est pas parce que j'étais manager ou directeur que je pouvais être au courant de tout. Un manager n'est pas omniscient. Ensuite, vous pouvez établir des plages horaires dédiées à la gestion des emails pour éviter que cette activité ne perturbe continuellement votre travail principal. Et ensuite, il faut sensibiliser et former. Il faut discuter de l'importance de réduire les emails non essentiels au sein de votre organisation ou de votre équipe. Une formation sur la communication efficace pourrait aider à réduire le volume des emails. Petit conseil tout bête, déjà supprimez la majeure partie des newsletters auxquelles vous êtes abonné et que vous ne lisez jamais. Il y a tout en bas des emails un petit bouton « Se désabonner » qui est parfois très utile et on ne pense pas toujours à le faire. En fait, votre application d'email contient beaucoup d'outils qui vont vous permettre de réduire le nombre d'emails inutiles qui vous font perdre du temps chaque semaine. Je le répète, imaginez 25 jours par an, c'est absolument gigantesque. Récupérer 200 heures par an en gérant mieux nos emails non essentiels n'est pas seulement un gain de temps, c'est une amélioration de notre qualité de vie au travail en appliquant quelques-unes des stratégies que je vous ai présentées. Il y en a d'autres bien entendu, mais en appliquant déjà quelques-unes, vous allez pouvoir réduire votre charge mentale car oui, ces emails perpétuels représentent des interruptions constantes et nous empêchent de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Alors, dès la fin de cet épisode, vous vous lancez, vous faites le ménage ? Selon une étude réalisée par le cabinet BPI Group, 47% des managers ont suivi une formation au management. Et oui, moins de 50% des managers ont suivi une formation pour manager. Dans un contexte professionnel de plus en plus exigeant, les compétences en gestion, en leadership et en management sont essentielles pour le succès individuel, mais aussi collectif d'une entreprise. Cependant, l'étude de BPI, menée auprès de plus de 1000 managers dans divers secteurs, est tout de même très révélatrice. Cette statistique est surprenante, surtout quand on sait l'impact d'un management efficace sur la motivation, la productivité et la rétention des salariés. Ce déficit de formation peut engendrer plusieurs problèmes. Premièrement, les managers non formés peuvent rencontrer des difficultés pour eux-mêmes. Et oui, faire un métier que l'on ne maîtrise pas, c'est beaucoup plus stressant. Ensuite, cela peut être difficile pour motiver leurs équipes, pour résoudre les conflits ou pour gérer efficacement les ressources. Cela peut conduire à une baisse de performance générale et à un climat de travail détérioré. De plus, comme je le disais, l'absence de formation adéquate va accroître le stress chez les managers eux-mêmes, les laissant souvent se sentir dépassés et insuffisamment préparés. Pour combattre ce phénomène, les entreprises doivent investir dans des programmes de formation continue adaptés aux besoins de leurs managers. Ces programmes devraient couvrir des compétences essentielles telles que la communication, la prise de décision, la gestion de conflits et le leadership éthique, par exemple. Un autre aspect crucial est le mentorat, où les managers expérimentés accompagnent les moins expérimentés, partageant leurs connaissances et leurs expériences. Investir dans la formation des managers n'est pas seulement une dépense, mais un investissement crucial pour l'avenir de toute l'entreprise. Assurer que les managers sont bien équipés pour faire face à leurs responsabilités quotidiennes bénéficie à toute l'organisation. N'oublions pas, un bon manager ne se définit pas seulement par ses compétences techniques, mais aussi par sa capacité à diriger et à inspirer son équipe. Bref, investir dans la formation des managers, tout le monde y a intérêt. Selon une étude de Robert Half, seulement 34% des salariés aspirent à devenir managers. Alors, selon cette étude menée auprès de plus de 1000 salariés qui ne sont pas encore managers, il apparaît clairement que les ambitions de carrière varient considérablement selon l'âge et le genre. 39% des hommes contre 29% des femmes aspire à des postes de management. Chez les jeunes de 18 à 34 ans, cette aspiration est plus marquée, avec 45% qui envisagent une carrière managériale, tandis que ce pourcentage chute à 29% chez les 35-54 ans et à seulement 20% chez les plus de 55 ans. Ces chiffres sont révélateurs de différentes aspirations professionnelles qui peuvent évoluer ou décroître avec l'expérience et les priorités personnelles. Ces statistiques soulignent une réalité importante. On peut faire une très belle carrière sans nécessairement devenir manager. Ce n'est plus la seule voie de progression reconnue. Dans de nombreuses entreprises, des parcours alternatifs tels que spécialiste ou expert technique offrent des perspectives d'évolution tout aussi enrichissantes et respectées. Cette diversification des parcours est bénéfique. Elle permet à chacun de trouver sa place selon ses compétences et ses désirs, sans la pression de devoir gérer une équipe. Pour les entreprises, comprendre que tous les salariés n'aspirent pas à devenir manager est crucial. Cela les encourage à repenser leur modèle de développement professionnel et à valoriser différentes trajectoires de carrière. En offrant diverses voies de progression, les entreprises peuvent non seulement améliorer la satisfaction et la rétention de leurs talents, mais aussi optimiser la gestion de leurs équipes en confiant des rôles de leadership à celles et ceux qui désirent vraiment les assumer. L'aspiration à devenir manager n'est donc pas essentielle et c'est une bonne nouvelle. Je vais vous donner un autre chiffre. Moins de 15% en moyenne des salariés dans une entreprise sont managers. Bref, tant que le pourcentage des salariés voulant devenir manager est au-dessus de 15%, tout va bien et tout le monde est heureux. Selon une étude réalisée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, 37% des actifs se sentent fatigués dès leur réveil. Quelles en sont les conséquences et comment y remédier? Plongeons-nous dans ce sujet crucial. L'étude révèle une réalité alarmante. Près de 4 actifs sur 10 commencent leur journée déjà fatigués. Alors, cette fatigue peut être due à plusieurs facteurs tels que la qualité du sommeil, le stress, les habitudes de vie ou encore les conditions de travail. Ce niveau élevé de fatigue a des répercussions directes, non seulement sur la santé des individus, mais également sur leur productivité et leur bien-être au travail. Je le répète très souvent, mais être fatigué tous les matins, 1, n'est pas normal, et 2, il faut y prêter attention car c'est l'un des premiers signaux faibles du burn-out. La fatigue matinale affecte plusieurs aspects de la vie professionnelle. Premièrement, elle réduit la concentration et la capacité à prendre des décisions, ce qui peut conduire à des erreurs et à une baisse de la productivité. De plus, elle augmente le risque d'accident de travail, particulièrement dans les métiers nécessitant une attention constante. Sur le plan personnel, cela peut entraîner un sentiment de frustration et d'insatisfaction professionnelle, impactant le moral et la motivation. Pour combattre cette fatigue, plusieurs stratégies peuvent être adoptées. Du côté des entreprises, il est crucial d'encourager et de faciliter une bonne hygiène de sommeil, peut-être en ajustant les horaires de travail, pour les rendre plus flexibles par exemple. Les pauses régulières et la création d'un environnement de travail sain et motivant sont également importantes. Et je ne sais pas si vous le savez, un certain nombre d'entreprises ont même créé des salles de pause pour aller faire un petit dodo pendant 20 minutes pour se requinquer. Du côté des salariés, adopter une routine de sommeil régulière est importante. Il faut également éviter les écrans avant le coucher et pratiquer des activités relaxantes le soir. Tout cela peut aider à améliorer la qualité du sommeil. La fatigue matinale n'est pas une fatalité, mais il faut impérativement lutter contre. En prenant des mesures proactives, tant au niveau personnel qu'organisationnel, il est possible de réduire significativement ce phénomène et d'améliorer la qualité de vie au travail. N'oubliez pas que bien commencer sa journée est souvent la clé d'une journée productive et agréable. Et vous savez, ce que je trouve absolument incroyable, quand je donne mes conférences, une grande majeure partie des gens lèvent la main quand je leur pose la question « Est-ce que vous êtes fatigué le matin ?» Comme si cela était devenu une nouvelle normalité. Eh bien non, ce n'est pas une normalité et vous pouvez agir pour être en pleine forme tous les matins.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous serez tenu au courant du chiffre du jour de demain.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.